Bonjour Jacques Mignet.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées, Jacques. Le président turc Erdogan a obtenu l'invalidation de l'élection à la mairie d'Istanbul cette semaine. C'était Ekrem İmamoğlu du Parti Républicain du Peuple qui avait emporté ce scrutin, la principale force d'opposition.
Oui. Alors certes, c'est ce que rappelle l'éditorial du quotidien Le Monde, à peine 13 000 voix sur quelques 10 millions de votants, séparent le vainqueur du candidat de l'AKP, le parti islamiste au pouvoir, mais les bulletins ont été comptés et recomptés et le Haut Conseil électoral qui a annulé le scrutin au prétexte qu'un certain nombre de chefs de bureau de vote n'étaient pas des fonctionnaires n'a pas contesté l'élection des maires d'arrondissement qui, elle, a été à l'avantage de l'AKP. Pour le président turc, lui-même ancien maire d'Istanbul, cette défaite dans la cité qui fut son tremplin politique était un camouflet. D'autant que perdre cette ville qui concentre un bon tiers de la richesse nationale, c'est aussi priver l'AKP de capitaux et de fonds publics précieux pour nourrir entrepreneurs amis et clientèle. Monsieur Erdogan, qui se targue pourtant de tirer sa légitimité du suffrage universel, a donc franchi un pas de plus dans le mépris ouvert des règles de la démocratie, souligne l'édito. Dans les pages idées de Libération, la journaliste et écrivaine turque Ece Temelkuran s'entretient avec Ala Kodmani de son dernier livre « Comment conduire un pays à sa perte ». Elle y analyse les mécanismes à l'œuvre au sein des mouvements populistes ces dernières années à partir de l'exemple turc. Pour elle, la composante islamiste du pouvoir autoritaire en Turquie ne change pas fondamentalement la donne et identifier les points communs aux diverses formes de populisme de droite, c'est déjà les combattre. Les étapes pour prendre le pouvoir et s'y maintenir se ressemblent en effet. Détraquer la raison, je cite, et affoler le langage, dissiper la honte dans un monde marqué par la post-vérité, démanteler les dispositifs judiciaires et politiques, etc. L'écrivaine insiste sur le lien avec le néolibéralisme qui caractérise les populismes de droite par rapport à ceux de gauche, outre les valeurs conservatrices que les premiers mettent en avant, et elle justifie ainsi sa démarche comparative. C'est important pour les peuples indiens, turcs ou russes, sous l'emprise des populismes de droite, de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation. Et cela vaut aussi pour l'Europe, où certains partis d'extrême droite semblent se comporter comme les relais de l'influence russe pour miner la démocratie. Sous cet aspect, le pouvoir turc n'est d'ailleurs pas en reste. Dans le Figaro Vox, Laurent Bouvet dénonce le projet d'implantation d'écoles sur notre territoire, annoncé par le président turc, comme une forme de soft power, à la fois religieux et politique. Pour l'auteur de la nouvelle question laïque, il est impératif que la France, comme les autres pays européens, prennent conscience du double défi que cela représente, islam politique et concurrence des modèles d'éducation, et donc en l'espèce qu'elle refuse qu'Erdogan impose ainsi son islam sous couvert d'éducation. C'est d'autant plus nécessaire eu égard à la volonté politique actuelle de limiter, sinon empêcher, l'influence de courants islamistes étrangers sur nos concitoyens musulmans, surtout au moment où une partie d'entre eux se mobilise pour organiser un islam de France. L'un des arguments du pouvoir turc repose sur l'existence de lycées français en Turquie qui n'accueillent pas seulement les enfants d'expatriés mais aussi ceux de l'élite locale et notamment des dignitaires de l'AKP en mode représailles préventives comme le révélait Le Point. Dans le courant du mois d'avril, les responsables de ces lycées français ont reçu plusieurs visites modérément courtoises des fonctionnaires d'Ankara venus pour contester les fondements légaux de la scolarisation d'enfants turcs dans ces établissements. Mais l'enseignement qui y est dispensé n'est évidemment pas confessionnel et ne témoigne pas d'une volonté de propagande auprès de tel ou tel public en Turquie. La revue Siècle 21 consacre un dossier aux littératures de résistance en Turquie. Timur Muhyiddin évoque dans sa présentation une scène underground, il y a même un mot en turc pour la désigner, Yeralti, qui se développe, une scène donc qui se développe, des revues alternatives et des fanzines qui ont vu leur nombre exploser depuis 15 ans, des petites maisons d'édition innovantes et audacieuses où l'on traduit notamment des langues européennes mais aussi asiatiques. C'est la vie des lettres à l'ombre d'un pouvoir qui ne fait aucune place à la création littéraire. La révolte du parc Gezi en 2013 et sa répression ont joué comme un effet de bascule, aussi bien pour le pouvoir qui s'est radicalisé que pour les opposants à ce vaste projet immobilier qui prévoit la destruction du parc Taksim Gezi, l'un des rares espaces verts du centre d'Istanbul. La contestation a nourri une immense production spontanée de graffitis, de tweets, de chansons. Pour Yigit Bener, elle a même engendré une langue nouvelle, celle de l'humour, de la résistance, du partage, voire opposer la langue kurde ou celle des Kairas stambouliotes à la langue du pouvoir, langue ainsi définie, une langue qui fait la gueule.